Chapitre 7. Les enseignements du Seigneur, rapportés au chapitre 6, avaient pour but de placer les disciples dans des relations telles, avec leur Père qui est dans les cieux, que lui remplisse leurs pensées, qu'il s'agisse d'aumônes, de prières, de jeûnes ou de leur attitude à l'égard des richesses et des besoins de cette vie. Le chapitre 7 commence par des enseignements qui devaient régler leur rapport avec leurs frères et aussi avec les incrédules. Juger son frère est une tendance très profondément ancrée dans le cœur humain. Il n'est pas interdit de juger les choses ou un enseignement. Nous y sommes encouragés. Nous le voyons par exemple en 1 Corinthiens 2, verset 15 et 10, verset 15. Mais juger des personnes est défendu. L'Assemblée est appelée à juger, dans certains cas, ceux qui en font partie, comme 1 Corinthiens 5 et 6 l'indiquent, mais à part cela, le jugement des personnes est une prérogative du Seigneur. Si, en dépit de l'interdiction du Seigneur, nous nous y complaisons, deux peines suivront immanquablement, comme Jésus le dit ici. D'abord, nous serons nous-mêmes jugés, et il nous sera mesuré de l'exacte mesure dont nous aurons mesuré les autres. Secondement, nous serons entraînés dans l'hypocrisie. Dès le moment où nous nous mettons à juger les autres, nous devenons aveugles à nos propres défauts. La petite imperfection de notre frère prend une proportion énorme à nos yeux et nous n'avons pas du tout conscience de notre propre gros défaut, de nature à fausser notre vue spirituelle. La forme de jugement la plus profitable pour chacun de nous est le jugement de soi-même. Le verset 6 a en vue les impies, insensibles au bien et impurs dans leur goût. Les choses qui sont saintes et précieuses ne le sont pas pour eux. Et si malgré tout nous les leur présentons, ils les méprisent et nous risquons de subir leur violence. Il est juste que nous soyons des dispensateurs des choses saintes de Dieu, mais pas envers de telles personnes. Toutefois, si nous sommes appelés à donner, il nous faut d'abord recevoir. Et c'est ce dont parlent les versets 7 à 11. Pour recevoir, nous devons nous approcher de Dieu, demander, chercher, frapper. Une réponse de la part de notre Père est assurée. Si nous demandons ce qui est nécessaire, nous le recevrons, car il ne nous donnera pas à la place un objet sans valeur comme une pierre ou nuisible comme un serpent. Nous pouvons être certains qu'il nous donnera des bonnes choses, car son caractère de Père est céleste. Ainsi, sa mesure ne tombera pas au-dessous de celle d'un père sur la terre. Nous pouvons appliquer ici Ésaïe 55, verset 9, et déclarer que « Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi ses pensées de père sont élevées au-dessus de nos pensées. » Nous ne pouvons évidemment pas atteindre son niveau. C'est pourquoi, au verset 12, le Seigneur ne demandait pas à ses disciples une mesure au-delà de celle qui est établie par la loi et les prophètes. Dans les versets 13 et 14, le Seigneur regarde manifestement plus loin que ses disciples et s'adresse à la foule. Ceux qui la composaient se trouvaient confrontés au choix entre le chemin large et le chemin étroit, entre la destruction et la vie. Nous ne pouvons pas dire que la grâce de Dieu est étroite, car elle est apparue à tous les hommes. Ce qui est étroit, c'est le chemin du jugement de soi et de la repentance. Peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Et encore moins nombreux ceux qui le proclament. La majorité des prédicateurs préfèrent annoncer des vérités plus agréables. Nous avons ensuite l'avertissement contre les faux prophètes. On les reconnaît à leurs fruits, non pas à leurs belles paroles. Le fruit est le résultat et l'expression suprême de la vie, et il révèle le caractère de la vie dont il est l'aboutissement. Le faux prophète a une vie fausse, qui se manifeste nécessairement par des mauvais fruits. Il n'y a cependant pas seulement des faux prophètes, il y a aussi des faux disciples. Ceux qui font profession de fidélité au Seigneur, mais chez lesquels le lien vital de la foi manque. La foi vitale, comme le dit l'apôtre Jacques, doit s'exprimer par des œuvres. Tous ceux qui se placent vraiment sous la seigneurie de Christ par la foi doivent obligatoirement être prêts à faire la volonté du Père qui est dans les cieux, que lui représentait. Judas Iscariote offre une illustration terrible des versets 22 et 23. Certes, il a accompli des œuvres de puissance comme les autres disciples, mais à la fin, il est apparu qu'une relation de foi réelle n'avait jamais existé et qu'il n'était qu'un ouvrier d'iniquité. Aussi le Seigneur termine-t-il son discours par la parabole des deux maisons. Les constructeurs de l'une et de l'autre, le prudent et l'insensé, étaient des auditeurs des paroles de Jésus, mais un seul d'entre eux les mettait en pratique, le prudent. La parole n'enseigne pas le salut par les œuvres, mais le salut par cette foi vivante qui conduit aux œuvres. Si nous reportons nos pensées au sermon sur la montagne, nous verrons tout de suite que seule une foi véritable en Christ pouvait amener quelqu'un à faire ce qu'il enseignait. Nous discernerons aussi combien ces enseignements vérifiaient pleinement ses propres paroles du chapitre 5, verset 17. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Il nous a donné la plénitude de la loi et des prophètes, tout en ajoutant une lumière nouvelle au sujet du Père qui est dans les cieux, et en préparant par là le chemin pour la lumière plus complète de la grâce qui allait briller comme fruit de sa mort et de sa résurrection. C'est l'autorité avec laquelle il parlait qui frappait la foule. Les scribes s'appuyaient sur les enseignements des rabbins d'autrefois, tandis qu'ils disaient les choses qu'ils connaissaient de Dieu et avec Dieu.